L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans l'AJT du local de ce mercredi 2 juin. Nous sommes, effectivement, je viens de le dire, mais si vous étiez un peu perdu dans un espace temporel, nous sommes bien mercredi 2 juin, effectivement. Et je suis toujours avec plaisir en compagnie de Claire. Salut Claire, comment ça va ?
Eh ben, salut Marie, salut tout le monde, ben, ça va nickel. Bon, hier on a dit qu'on allait ramener le soleil aujourd'hui. On n'a pas trop réussi, mais ça devrait le faire dans quelques jours.
Je crois qu'on va éviter de faire des promesses sur la météo. C'est pas un bon deal, c'est pas une super idée. Hein. Il y aura le soleil qui va revenir plus tard. Oui, bah ça, oui. On s'avance pas trop pour le coup, mais. Mais ça va pas nous empêcher en tout cas de faire l'émission de toute façon et de parler justement d'un événement qui a lieu ce week-end, d'un reportage que tu as fait d'ailleurs au 6x4, un accompagnement qui est proposé aux groupes de musique locaux, Claire.
Oui, c'est ça. Et en plus, j'étais très étonnée quand je suis partie en reportage. C'est gratuit. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Les musiciens un peu amateurs qui veulent un peu se lancer, bah, c'est le moment de s'inscrire à des ateliers créés par le 6x4.
Et donc, ça commence ce samedi, c'est ça ?
Exactement. Premier atelier sur le juridique, etc. Donc, très intéressant. Faut pas le louper.
Très bien. Et vous en saurez un petit peu plus, justement, dans le reportage que tu as fait à venir d'ici quelques minutes. On parlait de météo, on espère qu'elle sera clémente ce week-end puisque les jardins des Arcis à Mélédumène sont ouverts justement par rapport à ce rendez-vous national, justement les rendez-vous au jardin tout simplement, donc ça parle de lui-même. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées justement au jardin des Arcis et notamment tout un parcours artistique. Vous l'entendrez, c'est justement le sujet de l'interview qu'on a fait sur place, donc on espère que vous entendrez justement les petits bruits de nature. Et puis on poursuit bien sûr notre feuilleton autour de la radio et aujourd'hui comme promis on va faire un petit coup d'œil dans le rétro puisqu'on va retracer un petit peu l'historique avec des sons d'époque, vous l'entendrez, et ne manquez pas en fin d'émission également la chronique de Soizic, un autre écho de l'écho.
Mais tout de suite Marie, un point sur l'actualité, 11 millions d'euros pour requalifier les friches industrielles dans la région.
Une somme qui fait partie du plan de relance de l'État. Le but c'est de réaménager des cœurs de bourg ou d'anciennes zones industrielles et de préserver des terres agricoles. On sait désormais quels sites vont pouvoir bénéficier de cette aide. En Mayenne, il y a le projet de requalification de l'îlot Val-de-Mayenne à Laval, le tiers-lieu d'économie sociale et solidaire Level, toujours à Laval, et à Mayenne, la restructuration et le renouvellement urbain du site Le Roulois.
L'épidémie continue de reculer dans la région.
En Mayenne, on compte 106,8 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants et 3,5% des tests sont positifs. La pression dans les hôpitaux du département reste stable pour le moment, avec 41 personnes hospitalisées, dont 5 en réanimation.
Une manifestation qui se transforme en meeting politique.
Ce sont les mots d'Olivier Richefou, le président du département, au lendemain d'une mobilisation qui a réuni plus d'une centaine d'agents de la solidarité à Laval. Il regrette la présence et l'intervention de candidats aux élections contre la majorité départementale et précise que les représentants du personnel n'ont pas souhaité être reçus. Les 15 postes créés restent très insuffisants pour les agents de la solidarité qui réclament plus d'une quarantaine de postes supplémentaires pour pouvoir faire correctement leur travail.
Victimes du gel en avril, les agriculteurs indemnisés.
La préfecture débloque un fonds d'urgence pour les agriculteurs mayennais spécialisés en production fruitière, que ce soit des pommes, des poires, des cerises, des kiwis, des prunes, des coings ou des groseilles. Une aide forfaitaire comprise entre 1 000 et 1 500 euros. Vous avez jusqu'au 15 juin pour faire une demande sur le site mayenne.gouv.fr.
Toutes de jeunes vêtues.
Eh oui, telle sera, et telle est déjà, la ville de Laval à J-28 du Tour de France. En mois d'avril, la municipalité a décidé d'accorder 15 500 euros aux associations lavalloises qui souhaitaient porter un projet en lien avec le Tour de France. Un coup de pouce qui a permis à 40 projets d'être soutenus. Et même si la fête du Tour qui était prévue ce week-end n'aura pas lieu dans ce format-là, eh bien la ville de Laval justement lance le mois du Tour avec des animations prévues chaque semaine.
La billetterie du festival Les Nuits de la Mayenne est ouverte.
La programmation complète est à découvrir sur nuitsdelamayenne.com. Le festival de théâtre en plein air se déroulera cette année du 19 juillet au 12 août dans différents lieux patrimoniaux du département, comme par exemple le château de Sainte-Suzanne. Et puis Soja Triani, Brasier, Whisper Night ou encore Quentin Sauvé, tous ont un point commun. Ils sont accompagnés par le 6x4.
La salle de musique actuelle lavalloise accompagne les musiciens amateurs ou professionnels gratuitement grâce au dispositif 5-3. 5-3 pour le département tout simplement. Charlène Oudaillé, responsable des projets d'accompagnement du 6x4, nous explique l'objectif du dispositif et du prochain atelier qui aura lieu ce samedi 5 juin.
C'est un dispositif d'accompagnement donc des musiciens qui résident en Mayenne. Donc c'est on fonctionne en réseau départemental avec les structures d'enseignement et de répétition pour mettre ensemble des actions pour accompagner les musiciens, qu'ils soient amateurs ou professionnels, dans leur pratique. Et donc on développe différentes actions d'accompagnement à la répétition, d'accompagnement scénique, mais aussi tout ce qui va être lié à la structuration et à leur développement, donc tout ce qui est entourage du groupe. Donc voilà, ça dépasse aussi la scène, le jeu, la répétition. On va aussi sur le développement d'un projet, et c'est notamment l'objet de l'atelier qu'on organise le 5 juin. Donc ça se déroule en deux temps. Le matin, donc il y a un atelier de 3 heures pour les musiciens professionnels ou qui sont en voie de professionnalisation, et aux activités de développeurs d'artistes. Donc les développeurs d'artistes, ça va être les tourneurs, les managers ou les labels. Et donc on a organisé une matinée vraiment pour eux autour de la structuration à la fois juridique de l'activité, mais aussi sur tous les contrats qu'un artiste peut passer avec un producteur de spectacle vivant ou un label pour produire un disque. Et l'après-midi, là on va plus être avec les projets amateurs. Donc en fait, ça va être des questions pour essayer de comprendre voilà, comment on peut se structurer, par exemple sous forme d'association ou autre, pour essayer de développer notre activité. Donc parce qu'un groupe amateur peut très bien faire plusieurs concerts par an, avoir besoin d'acheter du matériel, également aussi de trouver des financements pour enregistrer un album, par exemple. Donc en fait, ça va être comment je peux me structurer, comment je peux jouer sur scène, comment je peux percevoir en tant qu'amateur des rémunérations quand je fais aussi des concerts dans des petits lieux, des cafés-concerts ou des festivals. Voilà, donc... Et puis, il y a un décret qui encadre aussi la pratique en amateur, donc ça va être de parler un peu de ce cadre-là qui est pas très simple. Donc voilà, c'est une journée globale sur la structuration des projets, donc pas sur la pratique musicale mais vraiment sur l'environnement, voilà, une matinée plus pour les pros, un après-midi plus pour les musiciens amateurs. On a différentes actions toute l'année à l'échelle du département, et de temps en temps aussi on s'exporte un peu, on a des partenariats avec d'autres structures en Pays de la Loire, et puis on essaie d'aller sur des événements prescripteurs comme par exemple les bars en transe à Rennes, qui sont d'envergure nationale, qui permet de repérer des artistes en devenir. Et donc on essaie d'organiser des showcases avec des artistes mayennais sur des événements comme ça, pour qu'ils se fassent repérer en fait par des professionnels, des programmateurs de concerts, de festivals. Et il y a beaucoup d'actions qu'on organise en partenariat sur le territoire, vraiment en réseau avec les lieux d'enseignement et les lieux de répétition, pour être au plus proche aussi de chacun. On va organiser des accompagnements à la répétition, par exemple dans les studios de Mayenne, dans les studios à Cran, où là c'est un intervenant extérieur qui va vraiment se déplacer sur le lieu où répète le groupe. On suit en fait les différents projets mayennais, qu'ils soient vraiment amateurs ou professionnels. On s'adresse vraiment à tous.
Et si vous êtes intéressé par cet atelier, il reste encore quelques places. Vous pouvez envoyer un mail à Charlène Oudaillé à charlène@6x4.com. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur le site 6x4.com.
Et oui, je pense qu'il faut quand même se dépêcher, hein, puisque c'est quand même samedi. Donc si vous voulez en profiter et vous inscrire, n'hésitez pas à le faire assez rapidement. On va parler d'un autre événement ce week-end, les rendez-vous au jardin, avec 14 jardins justement à découvrir en Mayenne. Nous, on s'est intéressé au château des Arcis à Méldumène. Vous entendrez la propriétaire juste après Up From Here de Gabriel Pic. Oh, we going on the flow. Swerving at the green light, burning past the sign. In the clear of the sleeping day. On the free time, keeping on the rewind. Oh, we going on Swerving the flow. Swerving at the green light, burning past the sign. In the clear of the mirror.
sweeter than amaretto. Don't you ever let go or forget that I told you. As simple as a setup, then you gotta get up and rearrange what you go through. Taking the view from the top of the fence with both sides to choose from. Culmination of everything you've done, spreading the web out that you spun, you spun.
Oh, we going on the
swerving at the green light, burning past speed sign.
In the clear of
sleeping on the free time, keeping on the rewind.
Oh, we going on the
swerving at the green light, burning past speed sign.
In the clear of
sleeping on the free time,
suffering. Catching it all happening, no accident. Fast as it went, felt like it was forever. I'm passing them, outlasting them, no asking if. Just past the bend, the path gets so much better.
Oh, we going on the flow. At the green light, burning past speed sign.
In the clear of
sleeping it. On the free time, keeping on the rewind.
Oh, we going on the flow.
At the green light, burning past speed sign.
In the clear of
sleeping it. On the free time, keeping on the rewind.
Oh, we going on
the flow. At the green light, burning past speed sign.
In the clear of
sleeping on the free time, keeping on the rewind.
Oh, we going on the flow.
At the green light, burning past speed sign.
In the clear of me.
From Here de Gabriel Pic dans la JT du local. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio. Et ce week-end, on se donne rendez-vous au jardin, mais pas dans n'importe lesquels, attention, des jardins remarquables ouverts au public avec de nombreuses animations, spécialement ce samedi et dimanche. En Mayenne, ils sont 14 à participer à cet événement lancé par le ministère de la Culture, et parmi eux, le château des Arcis à Mélay-du-Maine, qui en profite aussi pour proposer toute une exposition d'art contemporain, Art 6, et lancer ainsi sa saison touristique. Entretien sur place avec la propriétaire des lieux.
Catherine Cauchois, mon mari et moi, nous avons acquis les Arcis il y a maintenant déjà 18 ans et nous sommes lancés dans la restauration du château et surtout du parc et des jardins il y a maintenant une bonne dizaine d'années, en œuvrant chaque année un peu. Nos jardins commencent à se patiner, les arbres ont grandi et il a acquis un certain charme avec son beau plan d'eau. Et chacun peut y trouver sa place, puisque par exemple nous avons une petite île labyrinthe que les enfants adorent.
Ces jardins, justement, on pourra notamment les visiter ce week-end, puisque c'est le début de tout un parcours artistique, justement, avec 5 artistes et même des œuvres d'enfants qu'on pourra voir ici. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui est-ce qu'on pourra retrouver et quelles sculptures et quelles œuvres on pourra retrouver ?
Bien sûr, donc ce week-end, pour les rendez-vous au jardin, nous lançons une exposition de sculptures dans Néo-Jardin et dans certains bâtiments qui s'appelle Arcis. On joue sur les mots pour les jardins des Arcis. Arcis, jardin d'art, jardin des Arcis. Et nous avons invité plusieurs sculpteurs à venir exposer, ainsi que les enfants de l'école maternelle de Mélay et des personnes en situation de handicap qui se sont installées dans... Enfin, qui ont installé leurs œuvres, plus exactement, dans le Colombier. Donc, si vous souhaitez que je vous parle des artistes, eh bien, vous avez notre unique femme, malheureusement, elle est seule, mais elle est remarquable, Hélène Jousse, qui est non seulement sculpteur, mais également auteur. Elle a écrit un roman qui s'appelle « Les mains de Louis Braille », où se traduit tout son talent de sculptrice, de sculpteur, puisqu'elle décrit la façon d'appréhender le monde par Louis Braille et les aveugles. Elle fait des œuvres en résine ainsi qu'en bronze. Elle est très axée sur le visage et elle fait des visages en ruban assez extraordinaires, extrêmement expressifs, que vous aurez l'occasion de croiser dans le jardin. Elle sera là dimanche et elle proposera un atelier aux enfants que nous appellerons « Voir avec ses doigts » sous forme d'un jeu de Colin Maillard où les enfants exploreront de façon tactile des sculptures.
Au niveau des autres artistes, justement, qui sera présent lors de ce parcours artistique ?
Beaucoup de Mayennais connaissent Robert Le Riverain, qui expose ses bronzes et quelques œuvres en plâtre dans notre grange à la Philibert de Lorme. Robert Le Riverain a appréhendé l'art dans en fait, les ateliers de son grand-père et de son père, qui travaillaient manuellement. Il a souhaité toute sa vie rendre ce qu'il ressentait, en particulier lui aussi, sur le visage. Voilà, vous pourrez découvrir ses œuvres dans la grange.
Effectivement, plusieurs lieux sur le site. De toute façon, les œuvres sont un petit peu partout hein, autour de nous, effectivement, des lieux couverts, mais aussi partout dans le parc, avec d'autres œuvres aussi, d'autres sculptures, d'autres sculpteurs.
Exactement. Vous savez que le thème des jardins, cette année, c'est la transmission des savoirs. On retrouve chez chacun de nos sculpteurs cette transmission par des personnes qui étaient proches d'eux. Par exemple, Laurence Emery a déposé ses œuvres en un véritable parcours autour de notre étang. Et quand il a expliqué à sa mère, vers 13 ans, il réussissait très mal à l'école, il a expliqué à sa mère quel métier il voulait faire. Il voulait être sculpteur et sa mère lui a dit non, la sculpture, ce n'est pas possible, ce n'est pas un métier. Et pour le tenter, elle lui a ouvert un livre de pâtisserie où on voyait des décorations sculptées en chocolat et en sucre absolument extraordinaires. Donc, il a accepté de faire de la cuisine et de la pâtisserie. Il a travaillé auprès de très grands chefs étoilés comme Paul Bocuse. À la suite d'une rencontre avec le criminologue Alain Boer, il a décidé de se consacrer à la sculpture. Il est actuellement installé dans l'école de Nuillé-sur-Ouette. Et on est très, très heureux d'avoir toutes ces extraordinaires sculptures dans nos jardins.
Donc, il y aura aussi, on l'a vu, beaucoup de sculptures. C'est normal, pour les jardins, c'est bien plus pratique. Hein. On sait que les peintures, ce serait un petit peu compliqué. Mais il y a aussi, malgré tout, des lithographies dans l'orangerie qui sont proposées.
Des lithographies proposées par Daniel Nadeau. Daniel Nadeau est né entre les deux guerres. Il ne se sentait pas très à l'aise à l'école. Il se cachait pour dessiner. Il a commencé par opter pour la peinture. Il a fait des gouaches, des lithographies. Il a beaucoup exposé à Paris. Il s'est lancé dans sa lithographie parce qu'il avait envie d'éditer ses propres livres. Et donc, il a fait un petit peu tous les métiers. Il a enseigné ensuite à l'école des Beaux-Arts de Nantes. Hein. On est toujours dans la transmission des savoirs. Et d'ailleurs, c'est amusant de savoir que c'est dans le magasin de un cahier de son grand-père qu'il a vu ses premières œuvres, parce que son grand-père disposait de façon originale et en faisant un certain nombre de constructions, tous les outils agricoles ou les outils que pouvaient utiliser les Français de l'entre-deux-guerres dans son magasin. Et ses œuvres se transformaient au fur et à mesure que les outils étaient achetés ou arrivaient. Et c'est ainsi qu'il a appris, ma foi, beaucoup de fantaisie.
Là, c'est vrai qu'on a quasiment fait la petite carte d'identité de chaque artiste, mais il en manque un dont on peut retrouver l'œuvre sur l'eau, elle se reflète dans l'eau, c'est Cédric Courtois.
Cédric Courtois, c'est notre Benjamin, il a seulement 33 ans. Cédric Courtois était un élève brillant à l'école, en seconde, il s'est dit « mais qu'est-ce que je fais là ?» Ses parents habitaient à l'ombre de la cathédrale de Beauvais, il adorait l'histoire et il a eu envie de travailler de ses mains. Et donc, il a dit à ses professeurs que non, il était peut-être premier de classe, mais ça lui était complètement égal, il n'avait qu'une envie, c'était apprendre à tailler la pierre ou à faire des vitraux. Donc il a commencé à apprendre la taille de pierre et puis il était un peu frustré, seulement la taille et pas la sculpture. Donc ensuite il est devenu sculpteur. Ses professeurs le trouvaient brillant ils l'ont poussé à copier et puis ils l'ont beaucoup poussé à inventer. Et Cédric, qui avait été très comment dire, très marqué par ses études historiques et qui voulait reproduire, a retrouvé l'imagination qu'il était, qu'il avait étant enfant. Et donc, il nous montre des œuvres très modernes dans le jardin. Et puis d'autres œuvres en marbre très très fines et d'une très haute technicité dans la grange où il expose avec Robert Le Riverain. Dans notre jardin, au-dessus d'une noue se reflétant sur l'eau, vous allez découvrir un polyèdre autour d'une sphère qui représente notre terre. Et voilà, je vous laisse découvrir ce lieu magique.
Déjà, ça donne un joli aperçu de ce qu'on peut voir dans le parc, puisqu'il y a une... au moins une trentaine d'œuvres, alors on vous laissera les découvrir. Donc ça, c'est à partir de ce week-end et ce sera pendant 6 semaines.
C'est jusqu'au 20 juillet et n'hésitez pas à y aller avec vos enfants. Toutes les générations se plaisent dans nos jardins entre l'étude des plantes, la découverte des sculptures et puis il y a des parcours ludiques pour les enfants qui explorent le site en étudiant ou en imaginant les animaux du jardin parce que imaginez-vous que Louisette la Chouette est très inquiète, Albin le jardinier a disparu. Et pour les plus grands, c'est le coffre de Charles de Servon, le constructeur du château, qu'on ne retrouve plus et il faut mener l'enquête. Donc voilà, les enfants ont le droit de marcher sur l'herbe, ils peuvent courir partout, ils cherchent les indices et je pense honnêtement que chez nous, ils sont heureux.
L'idée, c'est voilà, de, qu'on puisse venir ici en famille, que chacun y trouve son compte. Et c'est vrai qu'en parallèle, en plus de toutes les sculptures, on pourra aussi voir dans le court de tennis, qui est donc maintenant qui sert d'exposition, une exposition autour des châteaux, mais pas que, en tout cas, des joyaux de la Mayenne.
Oui, nous sommes un certain nombre de sites historiques ouverts à la visite qui nous sommes réunis en association, l'association 4 pas en Mayenne. 4 pas pourquoi ? Pour patrimoine, parcs et jardins, passion et partage. Donc nous sommes ouverts à la visite et dans nos 14 sites sont passés un photographe, Pascal Beltrami, qui a photographié des détails d'architecture, plaques de cheminée, chapelles, vitraux, charpentes et aussi le château dans son environnement ou le moulin. Fontaine Daniel fait partie de notre association et depuis peu de temps l'abbaye de Clermont. Donc vous trouverez sur ce court de tennis une belle exposition de photographies sur bâche. Vous en trouverez une autre au château de Lasset et enfin une troisième exposition au château de Cran et même une quatrième au château de Sainte-Suzanne. Et à chaque fois que vous allez voir ces belles photographies, vous aurez envie d'aller visiter ces sites. Le patrimoine de la Mayenne est merveilleux et il faut que tout le monde le sache et que tout le monde le connaisse, en particulier les touristes qui vont ainsi pouvoir découvrir une Mayenne qu'ils ignoraient.
On poursuit en tout cas cette présentation des événements pour ici faire vivre le château des Arcis avec Jazz au Jardin. Là aussi, ce sera mi-juin.
Ça sera même le 11, le 12 et le 13 juin. Un concert de jazz qui aura lieu le 11 juin dans le jardin remarquable du château de Clivoy, le 12 juin dans nos jardins aux Arcis et le 13 juin dans le parc du château de la Rongère. Vous avez une merveilleuse chanteuse qui s'appelle Véronica Rodriguez, qui va interpréter les grandes voix féminines du jazz. Donc, vous croirez entendre Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. Elle sera accompagnée par un quartet avec Jean-Philippe Vidal au saxophone, Pierre Lebeau au piano, Anthony Muccio à la contrebasse et Jean-Pierre Chêne à la batterie. Des concerts merveilleux, 3 concerts sur toute la Mayenne. N'hésitez pas à arriver plus tôt dans le jardin, vous pouvez arriver dès 15h, vous emmenez votre pique-nique, vous pouvez dîner sur place avec votre pique-nique et ensuite assister au concert qui a lieu à 20h à Clivoy et aux Arcis le vendredi et le samedi et à 19h au château de la Rongère.
On l'a compris, on l'a entendu. En tout cas, il y a beaucoup d'événements ici autour du château. C'est important pour vous de faire vivre justement ce château et les extérieurs, les jardins, par aussi d'autres animations, d'autres événements proposés.
C'est très important. Vous savez, nous avons des enfants et même des petits-enfants maintenant, même si on se sent encore très jeune. Mais un grand château pour nous comme ça, avec un beau jardin tout seul, c'est tellement triste. Et en fait, ce lieu de patrimoine qui se croise avec la nature et les jardins, le respect de la biodiversité, des artistes dans le jardin, que ce soit des sculpteurs, des peintres, des musiciens, ça donne vie au site. Et le fait que toutes les générations puissent s'y sentir heureuses ensemble, pour nous, c'est vraiment très très important.
Des visites libres et guidées sont proposées tout au long du week-end, tarifs 5€ par adulte et 3€ pour les enfants de 6 à 12 ans. Pour retrouver l'ensemble du programme dans la région, il faut aller sur le site jardin avec un S, pays de la Loire.fr. On va passer à la chronique de Soizic, un autre écho de l'écho, juste après Talk is Cheap de Jameson.
AC still blown. We that cool, baby.
Don't you waste your time on me.
So maybe when you come out here talking, just make sure you bring some money with you.
Talk is cheap de Jameson dans l'AJT du local. Et mercredi, un mercredi sur deux, donc mercredi tous les 15 jours, ça marche aussi, on retrouve Swazik et sa chronique éco-sociaux avec aujourd'hui toute une réflexion autour de notre monde après un peu plus d'un an de crise sanitaire. Bonjour Swazik, on vous retrouve donc pour une nouvelle chronique, un autre écho de l'écho, intitulée « Quand le monde d'après va se faire rattraper par le monde d'avant ».
Eh oui, vous savez bien Marie que depuis le début de la pandémie, on se demande ce qui va changer avec le monde d'après. Alors, je ne sais pas ce qu'il en sera du nombre de naissances, qui visiblement se casse la figure, du travail à distance, ni de l'école pour tous à la maison, mais une chose est sûre, c'est que du point de vue de l'économie, le monde est bel et bien à l'envers. Je m'en explique. On se rappelle les règles qu'on nous avait expliquées il y a 2 ans. Eh bien, aujourd'hui, on nous enjoint de faire exactement l'inverse. Il en va ainsi du circuit de la monnaie. Alors, jusqu'il y a 2 ans, on nous assénait qu'en dehors du théorème dit de Schmitt, point de salut. Or, ce même théorème est devenu aujourd'hui totalement hors de propos. C'est que celui qui fut chancelier de l'Allemagne dans les années 70 et qui a donné son nom au théorème, dans une logique toute protestante, nous enjoignait de gagner de l'argent. Cet argent devait être économisé pour se transformer en investissement demain et en profit après-demain. Eh bien, voyez-vous Marie, tout ça, c'est désormais complètement ringard. Exit les Allemands et leur gestion au cordeau conforme au protestantisme. Bonjour John Maynard Keynes et la consommation à tout va à l'anglo-saxonne. L'austérité allemande se trouve désormais au placard et revient sur le devant de la scène un des plus grands économistes du XXe siècle, voire peut-être d'ailleurs de l'humanité, qui enseignait pendant la crise de 1929 qu'il fallait, je cite, « euthanasier les rentiers pour dépenser, consommer et faire ainsi repartir la machine économique ». Alors, aujourd'hui, vous l'avez entendu, hein, le leitmotiv est donc de dépenser, dépenser et encore dépenser. Surtout, ne mettez plus de sous sur votre compte, n'épargnez plus. Vous avez assez épargné, nous dit-on, depuis 1 an, et ces 100 milliards de surplus d'épargne doivent maintenant reprendre le chemin des magasins. D'ailleurs, de non-essentiels hier, ces mêmes magasins sont aujourd'hui devenus vitaux pour drainer toutes ces économies et relancer la production. Et si jamais l'idée de ne pas consommer vous prenait, eh bien, votre banquier est là pour vous remettre dans le droit chemin. C'est ainsi que les échos nous expliquent qu'il ne sera bientôt plus possible de déposer de l'argent sur son compte au-delà d'un certain plafond au risque de se retrouver taxé. Et oui, Marie, vous avez bien entendu, notre épargne coûte désormais trop cher aux banques. Ça aussi, c'est nouveau. Le banquier ne veut plus de votre argent. Et c'est d'ailleurs ainsi que les échos nous apprennent que la première banque danoise va taxer d'1% tous les dépôts supérieurs à 13 000 euros. C'est le monde de demain.
Donc Swazik, vous nous dites qu'on est réellement parti pour le monde d'après.
Eh bien en fait, pas complètement. Car ce qui n'est pas nouveau, ce sont les externalités. J'y reviens encore comme je l'ai fait dans de nombreuses autres chroniques. Externalités ou conséquences négatives si vous préférez. Que toute cette consommation, et donc évidemment toute cette production en amont, ne manqueront pas de générer. Alors en effet, les effets pervers, tels que la pollution émise lors de la fabrication de nos achats, lors de leur transport, les déchets d'emballage, ou ces vieux objets que nous remplaçons et que donc on met à la poubelle, la consommation de matières premières nécessaires à toute cette production, ce transport, eh bien tout cela ne change pas. On peut même dire qu'elle s'amplifie à proportion de cette frénésie d'achat qui nous font tellement plaisir et qui, en plus, doivent nous sauver notre système. Le temps de la reprise économique est venu, ne gâchons pas la fête. Le temps n'est pas aux considérations de long terme, il faut consommer tout de suite.
Mais alors, si je vous suis bien, nous nageons en plein paradoxe.
Ben, vous avez tout compris. Pour faire tourner la machine, pour faire moins de pauvres, moins de chômeurs, pour générer des revenus et donc des impôts qui vont permettre de payer des hôpitaux, ou du moins ce qu'il en reste, des routes, des écoles et diminuer les inégalités, il faut consommer. Il faut consommer pour produire, produire pour créer des emplois, et donc, in fine, comme disent les économistes, produire, créer des revenus aux salariés, aux entreprises, ce seront leurs profits, et à l'État, ce sont les impôts. C'est comme ça que fonctionne notre système. Et c'est là toute la question, Marie, qui, elle, ne change pas. Comment sortir de ce système qui, d'un côté, nous fait tellement plaisir et soigne objectivement bon nombre de plaies du capitalisme, mais qui, d'un autre côté, nous emmène droit dans le mur. Alors, vous l'avez bien compris, Marie, finalement, à l'issue de cette pandémie, on nage en pleine schizophrénie. Nous entrons dans le monde d'après, où du besoin d'épargne, on passe à l'injonction à consommer vite et beaucoup. Et en même temps, la question des conséquences pour notre pauvre vieille terre, elle, reste la même que dans le monde d'avant. Alors, je me pose la question, Marie, est-ce à dire, comme le disait Giuseppe Tomani di Lampe dans son roman Le Guépard, qu'au final, on fait en sorte que tout change pour que rien ne change ?
Voilà qui va nous donner matière à réflexion comme souvent. Merci beaucoup Soizic. C'était d'ailleurs la dernière chronique de la saison. Mais bien sûr, vous pouvez toutes les réécouter en podcast si vous allez dans l'onglet Un autre écho de l'écho sur notre site l'autreradio.fr. Et puis on passe au troisième épisode de notre feuilleton spécial radio cette semaine. Les deux premiers, si vous les avez manqués, lundi et mardi, étaient consacrés à cette aventure assez folle de RMS, Radio Music Service, une radio libre créée en 1984 à Mayenne par Christian Laigle et son frère. Radio qui a été pirate quelques temps, mais a perduré ensuite sous une forme plus légale, on va dire, jusqu'en 1994. Et aujourd'hui, on dézoome un petit peu et on va s'intéresser à l'histoire de la radio en France, puisqu'en 2021, on fête donc le centenaire des premières émissions radiophoniques diffusées depuis la Tour Eiffel. Évidemment, la radio existait déjà auparavant, je ne vais pas revenir sur toutes les découvertes scientifiques qui ont permis son apparition depuis 1837, et elles sont nombreuses, mais la TSF, la télégraphie sans fil, a joué un rôle stratégique, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Elle est ensuite devenue média, la radio, avec cette date symbolique donc du 26 novembre 1921, avec la première émission de radio en direct, pendant laquelle la cantatrice Yvonne Brottier, de l'Opéra Comique de Paris, a chanté la Marseillaise. Le son a été diffusé lors d'un banquet organisé par l'Association des ingénieurs de l'École supérieure d'électricité, et la chanteuse se souvient de cet événement historique sur France Culture.
Je prenais part à l'expérience, j'étais dans le bain avec tous ces messieurs, n'est-ce pas ? J'avais peur que des parasites et de la Tour Eiffel.
Je suppose que là-bas, à Sainte-Assise, enfin, ça devait tout de même vibrer ferme.
Oh, ça a été une chose inoubliable pour moi de voir l'émotion qui avait précédé, d'ailleurs, cette expérience. Tous les jours précédents, avec tous ces ingénieurs, nous avons fait 1000 expériences, ces gens étaient bouleversés, avaient les larmes aux yeux, n'est-ce pas ? Et moi-même, je regrettais de n'y rien comprendre, car inutile de vous dire que j'étais là tout à fait en sourde et en aveugle.
La cantatrice qui d'ailleurs ne pensait pas qu'ensuite la radio allait avoir cette importance. La première radio d'État, sobrement nommée poste d'État de la Tour Eiffel, a d'ailleurs été créée juste après. Puis en 1922 apparaissent les premières radios privées. Et au début, donc, on était vraiment sur des lectures d'articles écrits. Et puis on passe à des journaux parlés, de la musique, des feuilletons culturels. En 1933, Georges Mandel, le ministre des PTT, crée une redevance pour soutenir les radios publiques. Et pendant la Seconde Guerre mondiale va se jouer la guerre des ondes entre Radio Londres, diffusée sur les antennes européennes de la BBC, et Radio Paris, la radio de la propagande allemande. Et c'est justement sur Radio Londres que le général de Gaulle a fait son célèbre appel du 18 juin 1940.
J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Radio Londres, qui a été aussi très importante dans la transmission d'informations codées aux résistants avec les fameux messages qui sont assez connus là aussi. Après-guerre, en 1949, est créé ce qui s'appellera plus tard l'ORTF par le ministère de l'Information. ORTF pour Office de Radiodiffusion Télévision Française. Toutes les radios sont donc nationalisées. L'ORTF qui donc va perdurer jusqu'en 1974 où elle sera démantelée avec là 7 organismes instaurés. Radio France, TF1, Antenne 2, FR3, TDF pour Télédiffusion Française, la SFP, la Société Française de Production, et l'INA, dont sont extraits d'ailleurs la plupart des sons que je vous passe en ce moment. En parallèle, se créent quelques radios pirates, mais en France, elles vont mettre du temps à arriver. Hein. Il faut attendre 1979 pour entendre Lorraine Cœur d'Acier, la radio du syndicat CGT en lutte contre la fermeture des usines du milieu de la sidérurgie. Et 2 ans plus tôt, il y avait déjà eu en 1977 Radio Verte Fessenheim, la voix des opposants au projet des centrales nucléaires qu'on entend dans cet extrait de reportage d'Antenne 2.
Radio Verte, première diffusion, émission manifeste.
Les radios vertes sont arrivées hier sur Paris, bravant la loi, ouvertement, puisqu'on leur avait refusé leur demande de dérogation au monopole. Elles sont arrivées par provocation, pour rompre les carcans de la non-communication, pour protester contre la mainmise sur la France du monopole d'État.
Et donc effectivement, c'était extrait d'un reportage d'Antenne 2 diffusé en 1977. Et puis bien sûr, moment phare, hein, le 9 novembre 1981, la loi sur la libéralisation des ondes qui permet aux radios locales privées, associatives ou commerciales d'arriver en masse dans le paysage médiatique. La publicité, elle, est autorisée 3 ans plus tard, à partir de 1984. Et les radios deviennent donc des entreprises commerciales et Energy fait partie justement des premières radios musicales. Des jingles bien différents évidemment de ceux qu'on peut entendre aujourd'hui. Au niveau historique, il y a eu ensuite une date importante en 1989, la création du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, qui institue 5 catégories de radios, parmi lesquelles on retrouve les radios A, les radios associatives, comme ce que vous écoutez en ce moment, l'autre radio, les radios B, les radios locales indépendantes, et puis les radios C, c'est les radios locales franchisées, des radios nationales avec un décrochage local. Et puis plus récemment, depuis une quinzaine d'années, se développe la radio numérique terrestre, qu'on appelle également DAB+, qui là aussi prend de l'essor, mais ça c'est une autre histoire, on en parlera vendredi. Et c'est désormais l'heure de la rubrique Initiative avec toi Claire, et on commence aujourd'hui avec du recrutement.
Dans le secteur du service à la personne, pour l'opération hashtag tous mobilisés, le loco du pôle intercommunal à Mélédumène organise des rencontres pour l'emploi. Grâce à des interventions d'entreprises, des présentations d'aides, des témoignages et un job dating, vous pourrez rencontrer les recruteurs des entreprises ADMR, maisons et services ou encore de plusieurs EHPAD de la région. La rencontre est demain, jeudi 3 juin, de 14 à 16 h au 1 voie de la Guiternière à Mélédumène. Et avant de s'y rendre, il faut s'inscrire au 02 43 64 24 06.
Et Claire, tu nous parles d'un appel aux dons pas comme les autres.
Si vous avez des vieux képis, uniformes, médailles, insignes, gourdes, sacs à dos ou chaussures, vous l'avez compris, tout équipement militaire dont vous ne voulez plus, vous pouvez les confier à Emmaüs pour leur grande vente du 14 juillet, la Bourse Militaria. Une vente chaque année très suivie par les collectionneurs. Si vous voulez faire un don, vous pouvez vous rendre au Emmaüs de Villers-Charlemagne ou à celui de Laval, du mardi au samedi.
Merci beaucoup Claire pour ces initiatives. Si on veut justement réécouter les numéros de téléphone, les horaires... On n'a pas bien noté, évidemment, ça arrive, on écoute rarement la radio avec un crayon à la main. N'hésitez pas en tout cas à écouter l'émission en podcast sur l'autreradio.fr. Et puis comme toujours, si vous voulez nous partager une initiative, n'hésitez pas à nous laisser un petit message vocal avec toutes les informations au 09 70 40 59 40. C'est déjà à la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce mercredi 2 juin. Merci beaucoup Claire, on se retrouve demain.
Et oui, merci Marie, merci tout le monde et on se retrouve demain jeudi.
Et oui, demain à 12h15 comme d'habitude. Mais évidemment, avant, à suivre à l'antenne, à 19h il y aura Novorama, suivi à 21h de Chaosphère, avec ce soir les nouveautés des groupes fondateurs de Death Metal, qu'ils soient britanniques, américains, français ou hollandais. Nous, on se retrouve donc demain à 12h15. Je vous souhaite une très bonne journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est la JT du local.